Ok, donc le thème de cette étude biblique de vendredi, c'était réaliser les bienfaits de Dieu et être reconnaissant. C'est vrai que c'est quelque chose que on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Je disais que les deux sujets, donc ce sujet de reconnaissance est lié à la guerre spirituelle. Pourquoi? Pourquoi d'après vous, la reconnaissance à Dieu est liée à la guerre spirituelle. Donc, dans quelle mesure ça peut être lié à la guerre spirituelle?
Et plus on s'approche des dieux, plus on saura combattre, dirais-je, on va avoir des armes contre les diables.
Donc, reconnaître, c'est un moyen, la reconnaissance à Dieu, c'est un moyen de s'approcher de Dieu. Et si on s'approche, on va être plus fort dans la guerre spirituelle.
Je dirais, plus on s'approche des dieux, plus on s'éloigne du diable.
Plus on s'éloigne du diable. Oui, ça aussi, c'est une bonne réponse. Est-ce que vous voyez d'autres points? Oui.
En fait, dans la guerre spirituelle, on ne s'en sort pas tout seul. Nous avons impérativement besoin du soutien de Dieu, de l'aide de Dieu, donc nous devons avoir une attitude reconnaissante quotidiennement, et tous les jours.
D'accord.
Parce que cette guerre spirituelle est. On a les effets, on en a discuté, du coup. Vous nous avez expliqué et qu'à chaque fois, vous nous disiez que Satan peut faire de nous d'une bouchée. Vous voyez? Et donc, sans l'aide de Dieu, on n'y arrive pas. Sans le spirituel, comme vous dites, sans l'aide du Saint-Esprit, on n'y arrive pas. Donc, cette marche constante dans la voie de Dieu nécessite la présence de Dieu, le soutien de Dieu, et donc, nous être dans une attitude reconnaissante tous les jours, voilà, pour s'en sortir.
C'est bien, c'est aussi une bonne réponse. Est-ce que vous voyez autre chose? Quand on est reconnaissant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous amène à être reconnaissant?
Nos actions et la manière, par exemple, dont on va vraiment faire des efforts, parce que c'est chez l'être humain, c'est des efforts, parce qu'on ne peut pas être tout le temps hyper bien. C'est des efforts qu'on va vraiment fournir pour toujours se rapprocher de Dieu et vraiment reconnaître que même quand on est dans des moments difficiles, il pourvoit en fait. Dans
D'accord.
ce
Donc
sens-là.
reconnaître que dans les moments difficiles, il pourvoit. Donc si je pose la question, qu'est-ce qui nous amène à être reconnaissant? C'est plutôt la fin que tu as dit. C'est reconnaître que dans les moments difficiles, il pourvoit. Mais quels sont les autres motifs qui peuvent nous amener à être reconnaissants à Dieu?
La foi.
La foi, oui. Ça, c'est vrai. Parce que nous avons la foi, alors on va développer cette reconnaissance à Dieu. Parce que on ne voit pas toujours tout ce que Dieu fait, mais on doit être reconnaissant à Dieu pour ses bienfaits, qu'ils soient visibles ou invisibles. Qu'est-ce qui peut nous amener aussi à être reconnaissants?
La grâce de Dieu.
La grâce de Dieu. Oui, on disait tout à l'heure avant de commencer le culte que Dieu nous fait grâce d'être vivants. Le fait d'être vivant aujourd'hui, là, c'est une grâce. Que ceux qui sont morts n'ont pas. Que ceux qui sont dans des hôpitaux, qui sont paralysés, qui sont dans des prisons, n'ont pas. Dieu nous fait une grâce. Et c'est un sujet de reconnaissance. Qu'est-ce qui peut être un autre sujet de reconnaissance? Y a plein de
La
sujets.
famille,
La famille,
la santé,
la
le
santé,
travail,
ouais.
Il y en a beaucoup.
L'éducation, mais en
Ouais.
fait, pratiquement, bah, toute notre vie, quoi.
Toute notre vie est un sujet de reconnaissance. Ça, c'est vrai. Quand on regarde l'œuvre de Dieu au sens large, on voit la réalisation parfaite de Dieu, toute notre vie, toute notre existence est un sujet de reconnaissance. Moi, je dirais que Dieu répond à nos prières. C'est un sujet de reconnaissance. On avait prié pour Apoenée pour qu'elle trouve un stage il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près trois semaines. Elle a trouvé un stage à Grenoble. C'est un sujet de reconnaissance. Hein? On a prié pour tel ou tel autre sujet, Dieu a fait. Ça, c'est un sujet de reconnaissance. On a parlé de la grâce de Dieu. On peut parler de la miséricorde de Dieu. Le pardon que Dieu nous accorde chaque jour pour nos péchés. C'est un sujet de reconnaissance. Ne pas vivre dans la culpabilité, dans la honte, hein? C'est-à-dire l'expiation de nos péchés. Que Dieu, il enlève le poids, la charge qui pesait sur nous, il prend sur lui Jésus. Alors ça, c'est un sujet de reconnaissance. Parce que moi, je peux marcher léger. Hein? Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le repos de notre âme est un sujet de reconnaissance, n'est-ce pas? La légitimité que Dieu nous donne. On ne marche pas dans la culpabilité, on ne marche pas dans la honte, on ne marche pas aussi, comment dire, dans l'opprobre ou le rejet, parce que Dieu nous donne son amour et il nous donne sa légitimité. Ça aussi, c'est un sujet de reconnaissance. Les promesses de Dieu qui se sont réalisées, n'est-ce pas? Dieu, il avait dit, voilà, je ferai ceci dans ta vie, j'accomplirai telle chose dans ta vie, je te donnerai telle chose. Ces promesses se sont réalisées. C'est aussi un sujet de reconnaissance. Et Dieu a accompli des actions inattendues dans notre vie. Quelque chose qu'on n'espérait pas. Hein? Donc des actions inattendues, des grâces imméritées. Hein? La grâce, elle est toujours imméritée, mais disons que c'est des grâces supérieures. En plus que Dieu nous donne, ce sont des sujets de reconnaissance. Et quand je regarde cette œuvre, ce tableau-là, dans son ensemble, je prends du recul. En fait, j'ai envie de louer le Seigneur et d'être reconnaissant tout le temps. Que je sois dans la joie, que je sois dans la tristesse, je veux être reconnaissant et voir l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Pourquoi? Parce que Dieu, il est bon envers nous. Il est bon envers nous. Quand je suis dans des situations difficiles, quand je traverse la vallée de l'ombre de mort, quand je vois que tout est sombre, tout est difficile, tout est pénible, il n'y a rien qui marche, eh bien, je veux me rappeler de ses bienfaits. Hein, c'est ce qu'a dit le roi David. Je veux me rappeler tes bienfaits et je vais te louer. Pourquoi? Parce que je vais être reconnaissant. En fait, finalement, la reconnaissance, c'est vrai, c'est la gloire que nous rendons à Dieu. Nous lui disons, voilà, tu m'as béni, tu as fait telle chose, tu as accompli telle chose, je te loue, je te bénis. Mais en retour, cette reconnaissance nous fait du bien dans notre âme. Pourquoi? Parce que cette reconnaissance va nous réparer. Cette reconnaissance va nous protéger. Cette reconnaissance à Dieu va produire en nous une source de joie et d'espérance. Vous voyez? C'est pour ça que vous voyez David dans les Écritures, il va toujours dire, « Oh mon âme, loue l'Éternel, pourquoi es-tu abattu? Rappelle-toi de ses bienfaits. » David va parler à son âme, parce que son âme était dans la souffrance, dans la détresse, dans l'angoisse peut-être. Il voyait que son fils avait saboté le royaume que Dieu lui avait donné, pour la gloire de Dieu. Son fils avait saboté ce royaume et il faisait du désordre. Et lui, il était abattu. Il se disait, mais comment je vais réparer tout ce désordre que mon fils est en train de faire? Comment je vais pouvoir me présenter à nouveau devant Dieu avec tout ce qui se passe? Et il savait quelque part que c'était aussi de sa responsabilité si toutes ces choses étaient arrivées. Donc son âme était abattue. Je crois qu'elle est descendue. Son âme était abattue. Et David rappelait sans cesse à son âme, « Oh mon âme, sois dans la joie. Rappelle-toi des bienfaits de l'Éternel. » Donc, la reconnaissance n'est pas seulement la gloire que nous rendons à Dieu. La reconnaissance va produire en retour une espérance. Elle va produire en retour une joie, un réconfort dans notre âme. Et ça va nous encourager, ça va nous fortifier d'être reconnaissants en Dieu. Quand nous traversons la vallée de l'ombre de mort, on peut se rappeler qu'en janvier, voilà ce que Dieu avait fait. En avril, voilà ce que Dieu a accompli. Voilà, en mai, j'ai traversé cette situation. Dieu a tendu sa main et il m'a sorti de là. Et en juin, j'étais dans la maladie, Dieu m'a sauvé. J'avais mes études, Dieu s'est révélé. J'avais mon travail, Dieu s'est manifesté. Je veux louer le Seigneur. Oh, mon âme, sois dans la joie. C'est ce que David disait. Eh bien, nous aussi, dans notre marche, on doit être dans cette attitude. Je veux me rappeler les bienfaits de Dieu. Je veux compter les bienfaits de l'Éternel, dit David aussi. Apprenons à nous rappeler les bienfaits de Dieu. Quand nous sommes dans une situation où on sent que nous sommes tiraillés, on sent que nous manquons de force et d'énergie, on sent qu'on a une baisse de motivation, d'engagement, dans notre marche avec Dieu, au quotidien, pour le travail, pour tout ce que nous faisons, on sent que les choses perdent peut-être de leur éclat et de lumière. Alors, revenons au pied du Seigneur. Disons-lui, Seigneur, rappelle-moi tes bienfaits. Rappelle à mon âme tes bienfaits. J'ai besoin que tu me rappelles chaque matin tes bienfaits. Montre-moi tes bienfaits pour que mon âme ne soit plus dans la tristesse, pour que mon âme ne soit plus dans la détresse. Salut. Je peux à chaque fois m'approcher du Seigneur dans ce sens. Je peux à chaque fois... Julien, tu peux enlever... tiens, Ézéchiel, vous pouvez enlever ça comme ça, ça fait ta place. Waouh, c'est trop bien. Merci Blanche. Je peux me rappeler des bienfaits du Seigneur. Et plus je vais me rappeler les bienfaits du Seigneur, plus le Seigneur va soigner mon âme. Et plus ça va produire à moi une espérance. Plus je veux me dire, en fait, Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas laissé seul. Je ne suis pas seul. Amen.
Amen.
Souvent, nous souffrons. Nous restons dans l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on oublie les bienfaits du Seigneur. On oublie que Dieu, il est bon, il est riche en bonté et il est lent à la colère. Mais quand on se reconnecte avec lui, là par exemple à la fin de cette année, il y a deux attitudes possibles que l'on peut avoir. Soit on va avoir une attitude où on va regarder ce qui s'est passé, on va dire, mais je n'ai pas réussi à acheter la voiture, je n'ai pas réussi à changer d'appartement, je n'ai pas réussi à refaire mon projet, je n'ai pas réussi à acheter une maison, acheter une voiture, je n'ai pas réussi à avoir un mari, je n'ai pas réussi, voilà. Soit je regarde ça et je suis abattu. Et le diable, qu'est-ce qu'il va faire dans cette guerre spirituelle? Lui, il est content. Il est content quand je suis abattu. Il s'approche et il va me rappeler. Tu vois, Dieu t'a laissé tomber. Dieu n'a pas été avec toi. Dieu n'a pas été fidèle. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est avec toi? Il va remettre en question notre communion et notre relation avec Dieu. Le diable, quand on met un pied dans cette façon de penser, il se réjouit. Parce que pour lui, il y a beaucoup de matière là-dedans, dans les remords, dans les regrets, dans, dans tout ce qui est frustration. Il a de la matière là-dedans. Il s'est dit, ok, ici, je vais travailler avec toi. Viens dans la vallée de l'ombre. Et il va te conduire là. Mais David, il dit, ô mon âme, loue l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Nous devons avoir cette conscience. Donc ça, c'était une première attitude. Je regarde ce qui n'a pas été fait. Je regarde les choses que, selon moi, Dieu n'a pas accomplies. Mais l'autre attitude, c'est de se dire, « Ok, cette année, qu'est-ce que Dieu a fait ? Qu'est-ce que j'ai vécu avec le Seigneur ?» Et là, je vais réaliser qu'en fait, Dieu a accompli telle chose. En janvier, il m'avait aidé. Quand j'ai prié, j'ai invoqué son nom. Il a envoyé sa parole, comme nous disent les Écritures. Dieu a envoyé sa parole et sa parole m'a délivré. Quand j'étais dans l'angoisse, quand j'étais dans la peur, quand j'étais dans la panique, Dieu a envoyé son esprit et je me suis senti réconforté. Dans la maladie, Dieu a tendu sa main et il m'a sorti de là et je me suis senti guéri. Dans la souffrance, j'ai vu la présence de Dieu. Je veux regarder ce que Dieu a accompli, plutôt que ce que Dieu n'a pas accompli ou ce que je n'ai pas accompli. Quand je veux regarder tout ce que Dieu a fait avec moi, alors l'Esprit de Dieu va venir et va me connecter davantage, va me rappeler davantage. Ah, mais tu sais, là aussi Dieu avait fait. Là aussi Dieu avait fait. À tel moment, Dieu avait parlé. À ce moment-là, son esprit était là. Et mon âme commence à fleurir. Je ne suis plus dans la vallée de l'ombre, mais je suis dans les verts pâturages. Je suis dans le vert pâturage. Je suis installé au large. Il me fait asseoir dans les verts pâturages. Et là, je vais vivre quelque chose de nouveau. Je vais voir que, en fait, Dieu a accompli beaucoup de choses. Et Dieu fait quand je lui demande. Dieu est présent. Il est toujours là. Il ne m'a jamais abandonné. Et cette année 2022, du coup, va plus être une année de lamentation, une année de plainte, une année de regret, de frustration, une année où j'ai échoué. Pour moi, cette année 2022 va être une année de joie, une année d'accomplissement, de victoire, de réussite. Même s'il n'y avait qu'une seule victoire, même s'il n'y avait qu'une seule réalisation de Dieu, je vais voir que Dieu a fait des grandes choses. Et mon cœur va être reconnaissant. Mon cœur va être rempli d'espérance. Parce que si Dieu a fait ne fût-ce qu'une chose en cette année 2022, je sais qu'en 2023, il fera une chose, au moins, voire plus. Parce qu'il sait faire. Il est capable de le faire. Et je veux être attaché à lui. Quand mon âme est attachée à Dieu, le diable, il vacille. Il vacille parce qu'il ne sait plus comment me prendre. Il ne sait plus par où venir parler à mon âme. Il ne sait plus. Il vacille. Lui-même, il sait que là, tout ce que je vais faire, ça ne va pas aboutir avec cette personne parce que son âme est enracinée dans la parole de Dieu. Et nous avons besoin de ça. Ne regardons pas ce que les yeux nous montrent, ce que le matériel et le physique nous montrent. Rattachons notre âme à l'Esprit de Dieu et demandons-lui, qu'est-ce que Dieu me montre? Qu'est-ce que tu vois, Seigneur? C'est comme Dieu a conduit Abraham sur une colline et lui a dit, regarde là-bas, qu'est-ce que tu vois? En 2023, là, qui va commencer, Dieu va nous mettre au-dessus d'une colline et va dire, qu'est-ce que tu vois? Soit nous allons voir l'année 2022, on va dire, je vois le désert, je vois la sécheresse, je vois la mort, je ne vois que la désolation. Parce qu'on n'a pas su voir les bienfaits de Dieu en 2022. Alors 2023, on va le regarder de la même façon. On va dire, moi je ne vois rien parce qu'en 2022, il ne s'est rien passé. Tout ce que j'avais demandé, tout ce qui me paraissait important, tu ne l'as pas fait. Donc je vois que la désolation, la tristesse, les... Voilà. 2023, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ou, comme Abraham, Dieu va lui dire, regarde bien Abraham, regarde. Tu vois cette terre? C'est la terre promise. C'est la terre où coule le lait et le miel. Et c'est là, je vais donner cette terre à ta descendance. Je vais donner cette terre à ta descendance. Ça t'appartient. Tu vas nous dire, tu vois, 2023, en 2022, j'avais fait une chose, mais en 2023, je vais en faire 10. En 2023, c'était fermé. En 2022, c'était fermé. En 2023, je vais ouvrir. Si tu ouvres un peu ton esprit, si tu élargis un peu ta foi, ton cœur, alors tu peux voir toutes ces choses. Et tu vas voir qu'il y a plein de bénédictions qui vont venir. Amen. On va regarder le psaume 103. Nous sommes donc dans le sujet qui s'appelle, la thématique qui s'appelle réaliser les bienfaits de Dieu et être reconnaissant. Se rendre compte des bienfaits de Dieu, compter les bienfaits de Dieu, comme peut le dire David, et être reconnaissant. Le psaume 103. Si quelqu'un l'a, il peut le lire.
Bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, enfin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel.
Amen.
Amen.
C'est la parole du Seigneur. Et voilà tout ce que Dieu fait dans nos vies, dans notre âme, dans notre marche. Dieu accomplit toutes ces choses. quand j'ai lu ce passage, au début, je me disais, qu'est-ce que je vais apporter, comment je vais le faire. En fait, ce passage contient tout ce qu'il faut, tout ce qui convient pour notre vie, tout ce qui convient pour notre âme, tout ce qui convient pour notre marche avec Dieu. On peut s'appuyer sur ce passage quand on se sent pas fort, quand on se sent diminué, quand on se sent affaibli. On peut s'appuyer sur ce passage. Quand on se sent souillé, on se sent pécheur, on se sent sans légitimité, on peut s'appuyer sur ce passage. N'est-ce pas? Regardez, souvent nous pensons que la grâce de Dieu s'est manifestée que dans le Nouveau Testament. C'est pas vrai. La Bible nous dit ici, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à tout jamais. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais ça, c'est la grâce. Il ne nous donne pas la punition qu'on mérite, mais il nous donne la grâce. Il nous donne le pardon, la miséricorde. Et nous, est-ce que nous réalisons toutes ces choses? Nous courons tellement après des choses matérielles, des réalisations, des projets. J'avais fait au début de l'année une prédication là-dessus. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens sont souvent déprimés? Qu'est-ce qui amène les chrétiens dans la dépression? Qu'est-ce qui amène les chrétiens à ne pas réaliser les bienfaits de Dieu? À votre avis, qu'est-ce qui peut faire qu'on ne réalise pas les bienfaits de Dieu?
Peut-être parce que les croyances se focalisent plus sur l'aspect négatif que le... Et donc, ça... Ils sont dans le désespoir.
Ouais. On se focalise plus sur les aspects négatifs et donc on est dans le désespoir. Oui. Quoi d'autre?
On se dit que le bonheur vient de les choses matérielles. On préfère... Tant qu'on n'a pas les choses matérielles, on n'est pas...
On a une mauvaise définition du bonheur, finalement. Et notre bonheur est peut-être basé sur ce qui est matériel. Et du coup, comme on n'a pas ce matériel, eh bien, on est triste. Voilà. Quoi d'autre?
Les situations qui perdurent.
Les situations qui perdurent, c'est vrai.
Les prières qui ne sont pas exaucées.
Les prières qui ne sont pas exaucées. Ça, c'est vrai. Ça peut être un sujet de frustration. Et du coup, on peut remettre en cause aussi l'autorité de Dieu, la capacité de Dieu à répondre et à répondre en notre faveur. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Manque de connaissance, oui. Manque de connaissance.
Qu'est-ce? Ouais.
Manque de patience.
On n'attend pas l'heure de Dieu.
Ouais.
On veut que la chose se passe vite.
Ouais. Manque de patience, on veut que les choses se passent vite. Ouais. À l'époque, ce que j'avais partagé sur cette thématique-là, c'était que les croyants n'arrivent pas à marcher, à réaliser les bienfaits de Dieu et à être épanouis. Parce que, on ne fonde pas notre vie sur ce qui est essentiel. On n'a pas un bon référentiel. Et aussi, on ne se laisse pas faire par Dieu. En fait, on se dit chrétien, mais souvent, on veut imposer notre agenda à Dieu. On dit à Dieu, voilà, moi, mon agenda, c'est ça. En 2025, je veux me marier. En 2030, je vais avoir 3-4 enfants. Et la maison, et la voiture, et ceci, et cela. On a un agenda bien détaillé et qu'on amène devant Dieu. On lui dit, voilà, Seigneur, c'est toi qui dois, voilà ce que tu dois faire. Et Dieu dit, mais est-ce que je peux dire quelque chose? Non, 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 non. C'est ça que tu dois faire. Et du coup, Dieu dit, mais en fait, j'avais quelque chose d'autre pour toi qui est mieux. Mais non, Seigneur, tu sais pas ce qui est... Moi, je sais ce qui est bien, c'est ça. Hein, c'est comme les enfants. Les enfants, ils vont venir t'expliquer à toi, voilà, moi, je veux ça, je veux cette voiture-là. Tu as beau lui expliquer, non, je veux ça. Ça, c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont frustrés. Pourquoi? Parce que notre agenda n'est pas l'agenda de Dieu. Nos plans ne sont pas ses plans. Nos projets ne sont pas ses projets. Et comme nous avons nos projets qui sont bien détaillés et dans lesquels hein, on n'a pas pris une seconde pour dire à Dieu, j'aimerais faire ça, est-ce que tu es d'accord? Mais on a décidé que c'est ça. Et puis, ben, on veut imposer ça à Dieu. Alors, comme Dieu résiste aux orgueilleux, eh ben, Dieu va dire, ton projet là, tu sais, ça ne me convient pas trop. En tout cas, pas pour aujourd'hui. Peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce projet-là qu'il faut pour toi. Et on va faire comme Israël. On va dire, mais nous, on veut quand même un roi. On veut quand même être comme les autres nations. Dieu va dire, ben non, pas vraiment, pas pour toi. Je ne veux pas ça pour toi. Et ça, ça va amener la frustration. Ça va amener le découragement. Ça va amener le manque de confiance, l'incrédulité. Ah, mais Dieu ne fait pas. Dieu n'agit pas. Ça fait des années que je prie. Ça fait des années que je demande. Dieu ne répond pas. Dieu m'a laissé tomber sur ce sujet. Dieu n'est pas avec moi. Ah, mais Dieu, il est bon, mais quand même, il n'est pas juste aussi, hein, quelque part. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, en fait, on inverse le rôle. On inverse le rôle. Nous, notre rôle, je disais ça, je ne sais plus, au frère qui venait là pour le baptême. Quand on dit, je crois que c'était à l'étude biblique, quand on dit « j'ai donné ma vie à Christ », derrière cette pensée-là, on met quoi? Donner sa vie à Christ, c'est quoi? C'est-à-dire, je donnais 2 minutes à Christ et puis le reste, c'est à moi. Ou je donnais 1 heure à Christ et le reste, c'est à moi. Le dimanche, 10h30, midi, c'est pour toi. Le reste, c'est à moi. Et encore, même ça. Hein. Des fois, on rabote un petit peu. Bon. Qu'est-ce que nous mettons derrière? J'ai donné ma vie à Christ. C'est ça, en fait. Beaucoup d'entre nous, nous sommes schizophrènes. Nous vivons dans le dédoublement de personnalité. On croit des choses et on veut vivre autre chose. On dit qu'on est convaincu de ça, mais on veut... autre chose. C'est incroyable. Je ne suis pas en train de vous faire une remontrance, mais c'est juste pour vous montrer que nous vivons parfois dans l'incohérence. Et cette incohérence va créer la frustration. Et va faire que on va se détourner parfois de Dieu. Beaucoup de chrétiens en arrivent là. En fait, ils ne prient plus. Ils n'ont plus une vie de communion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont l'impression que Dieu n'est pas pour eux. Je parle souvent de ça. On a connu un frère dans notre église qui était malade, qui avait le cancer. Il s'est fait opérer, on l'a ouvert pour enlever tout ce qu'il y avait dedans. Alors, moi personnellement, au moment où j'arrivais à l'église, c'était à ce moment-là qu'il devait se faire opérer. Mais je vous dis, pour moi, c'était comme si c'était quelqu'un de ma famille qui souffrait, et j'ai prié tellement Dieu, j'ai dit, Seigneur, ne laisse pas ce frère. Je ne veux pas qu'il meure, en fait. Je n'ai pas envie de vivre ça. J'ai prié. Toute l'église, on était mobilisés. Toutes les semaines, on se retrouvait le mardi, enfin, je ne sais plus si c'était mardi, mais on se retrouvait à la prière, on priait pour lui. Et Dieu a fait grâce, il s'est fait opérer, il est sorti 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il s'est rétabli, il a commencé à marcher. Wow, on était là, ouf, Dieu fait des choses quand même, Dieu fait des choses. Et ses frères, quand on commençait à parler avec lui, 1 année, 2 ans après, il nous dit quoi? Oui, moi je, Enfin, je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis que ça arrive dans ma vie. J'aurais voulu que Dieu ne permette pas que ça arrive dans ma vie. Moi, j'ai l'impression que j'ai régressé dans ma foi. Mais moi, quand il a dit ça, j'ai dit, mais voilà. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi penser. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne peux pas, je peux pas mettre à sa place. Ce n'est pas une maladie facile. Bien sûr, ça fait peur. On passe près de la mort. Je sais ça. Mais combien de personnes dans la Bible sont passées là aussi? David, Daniel, on l'a pris, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Daniel, il a dit quoi? Ah Dieu, mais quand même, tu es injuste. Pourquoi tu as permis qu'on me jette dans la fosse aux lions? Même si tu m'as délivré, tu m'as quand même jeté dans la fosse aux lions. Non, mais c'est vrai. Joseph, on l'a pris, on l'a jeté en prison. On l'a jeté dans un puits. Et du puits, on l'a vendu. On l'a vendu, on l'a jeté dans la prison. Mais à un moment, est-ce qu'il a dit, Seigneur, c'est vrai que tu m'as fait premier ministre en Égypte, mais quand même, pourquoi tu as permis que moi je vive tout ça? C'est vrai. On peut se poser la question. Est-ce que nous sommes chrétiens juste de parole? Est-ce que nous sommes chrétiens juste de dehors? C'est-à-dire de ce qu'on voit et ce qu'on montre? Où nous sommes chrétiens réellement au fond de nous. C'est ça en fait. Quand nous vivons dans ce décalage, on a des convictions qui sont décalées avec ce que nous aspirons, alors on est complètement, tout le temps, souvent, déçu. C'est la déception. Et Dieu n'agit pas. Dieu ne fait pas. Et notre vie va tourner autour de cette chose, tout le temps. Dieu n'agit pas, Dieu ne fait pas. Moi, quand je regarde, Dieu n'agit pas, Dieu ne fait pas. Et c'était le cas de notre frère. Paul va dire qu'il y a des chrétiens qui sont charnels. On ne leur en veut pas. Mais il y a de ces chrétiens qui sont comme ça. C'est comme de Thomas. Seigneur, si je ne vois et si je ne mets mes mains dans tes trous, dans tes mains et dans ton pied, je ne croirai pas. Il y a des chrétiens comme ça, hein. On a besoin de mettre notre doigt et de toucher pour croire que Dieu fait des choses. Dieu ne nous en veut pas. La preuve, Jésus il dit, Thomas, viens, approche-toi, mets ta main ici, là et là, vérifie. Ah, le Seigneur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ah ok, maintenant tu crois. Voilà. C'est ce qui produit la frustration et c'est ce qui va nous empêcher d'être reconnaissants. Nos objectifs de vie ne sont souvent, très souvent, pas alignés avec nos convictions, avec l'engagement que nous avons pris devant Dieu. On a dit qu'on donne la vie à Christ, mais en fait, c'est nous qui dirigeons notre vie. Et on bricole, on tâtonne. Dieu dit, laisse-moi faire. En fait, tu ne vois pas que là, tu vas d'échec en échec. Tu vas ici, tu te cognes là, tu te cognes ici, tu te fais mal ici, tu te fais mal là. Laisse-moi faire. Non, 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 non. Laisse-moi, Seigneur, je sais faire, je vais conduire. Nanani. Et je suis déçu. Au ciel, Dieu dit, nous verrons clairement. Dieu répondra peut-être à tout ce qu'on lui fait porter comme chapeau aujourd'hui. Là. On dit que c'est sa faute. Dieu va dire, alors c'est ma faute, je vais te montrer. Regarde ici, est-ce que c'est ma faute? Regarde là, est-ce que c'est ma faute? Tu vois? Non. On a besoin d'aligner nos engagements avec notre ligne de conduite, avec nos objectifs de vie. On a donné notre vie à Christ, laissons-le faire. Si on marche comme ça, si on donne à Dieu réellement notre vie, ça veut dire, Seigneur, je fais de toi mon Seigneur, mon Maître. Je veux te suivre. Je vais marcher avec toi. Je vais marcher derrière toi, pas avec toi. Je vais marcher derrière toi. Toi, tu es devant, tu montres la direction et moi, je te suis. Je vais obéir. Alors, en fait, on verra que finalement, la vie chrétienne, elle est bien. Parce qu'en fait, Dieu nous montre le chemin et on suit. Et il nous dit, arrête-toi, tu t'arrêtes. Il dit, ralentis, tu ralentis. Il dit, ne regarde pas ça, tu ne regardes pas ça. Et finalement, tu vois que oh, Marcher avec Dieu, ça a plein de bénédictions en fait. Plein de bonnes choses. Hein? Comme Israël dans le désert. Bien sûr, je suis dans le désert. Bien sûr, je suis dans la maladie. Je suis dans des situations critiques. Mais à côté, qu'est-ce qui se passe? Dieu amène la manne. Dieu fait tomber des cailles. Dieu fait sortir de l'eau d'un rocher. Dieu fait plein de miracles autour. Et je peux voir ces miracles. Je ne veux pas me concentrer sur le désert. Je ne veux pas me concentrer sur les situations pénibles. Mais je veux regarder la grâce, la bonté, la fidélité, l'amour, la justification, la confiance, l'espérance. Je veux regarder ça. Dieu fait plein de choses. Et ces choses vont être un sujet de reconnaissance. Ça va produire en moi la reconnaissance. Ça va produire en moi la vie. La vie. Parce que la vie éternelle, Jésus dit quoi à la femme samaritaine? Il lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, cette eau va devenir en toi une source d'eau vive qui jaillira pour l'éternité. Mais c'est cette source d'eau, c'est cette source de vie que nous avons besoin de demander au Seigneur. Pour qu'on puisse boire de cette eau et qu'elle puisse jaillir en nous, il faut qu'on aligne nos objectifs de vie, notre façon de penser, notre façon de voir les choses avec la façon de voir de Dieu. Il faut qu'on dépose à ses pieds tout ce que nous pensons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des projets, qu'il ne faut pas rechercher certaines choses, avoir des objectifs. Je dis juste que ces objectifs, il faut les poser auprès du Seigneur. Seigneur, voilà, j'aimerais bien, c'est ce qu'on, en ce moment, moi je prie pour qu'on quitte cette maison. Mais si je commence à me dire, c'est urgent, j'ai un enfant, il faut qu'on parte de là, je vais commencer à souffrir pour rien. Pour rien en fait. Là, dans cette chambre où on est à trois, Dieu nous permet déjà de vivre à trois. Notre fille, elle marche même pas aujourd'hui. Elle n'a pas besoin de plus. Mais moi, je peux porter un fardeau. Voyez? Et je peux dépérir à l'intérieur. Pourquoi? Parce que, ah, mais j'ai ma fille, il faut une chambre. Mais elle n'a pas besoin. La chambre, elle va, déjà aujourd'hui, elle veut dormir dans notre lit. Elle veut être dans notre lit. Alors, la chambre, elle va l'utiliser combien de minutes? Donc, moi, je vais devenir malade pour une chambre qu'elle ne va pas utiliser avant peut-être une année. Vous voyez? Voilà. Comment est-ce que nous voyons les choses? Et des fois, on porte des charges trop lourdes, tout seul. Dieu n'a rien à voir et le diable même n'a rien à voir dedans. On se fait nous-mêmes des grosses charges et qu'on veut porter. Et Dieu dit, mais en fait, tu ne vois pas que cette charge, tu peux la poser et juste prendre une petite charge qui convient et que je vais te donner. Non, non, moi je me fais une grosse charge que je porte. Et Dieu me regarde. Quand Dieu vient pour me dire, hey, laisse-moi t'aider. Non, 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 mais laisse-moi, je vais faire ça comme ça. Et après, je souffre. J'endure. C'est pénible. La vie chrétienne, elle devient pénible. Parce qu'en fait, on ne voit pas la main de Dieu. On ne voit pas l'œuvre de Dieu. On ne voit pas tout ce que Dieu a accompli parce que nous, notre objectif et notre cible n'est pas la bonne. Et on traîne la patte. Du coup, on voit ce qu'on voit dans les églises. Beaucoup de frères ne viennent plus à l'église. Il y a une baisse de motivation à la prière, baisse de motivation à l'étude biblique, baisse de motivation dans telle ou telle activité. Ben oui, pourquoi? Parce que moi, j'espérais ça et je ne l'ai pas. Moi, je voulais ci et je ne l'ai pas reçu. J'ai demandé ça et je ne l'ai pas reçu. Quand on demande quelque chose, tiens, Ézéchiel, si je te demande de me donner une voiture, admettons que tu as les moyens de me donner une voiture, qu'est-ce qui va se passer? Si je te demande, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sais pas. C'est aussi une réponse. Des fois, Dieu, il ne sait pas ce que nous lui demandons. Il ne sait pas. Parce qu'en fait, oui, ça ne correspond pas trop à ce que lui, il attend de nous. Mais il peut y avoir deux possibilités. C'est lesquelles?
Est-ce que je suis vraiment prêt pour conduire cette voiture qui va te donner?
Je suis prêt. Oui, ça c'est une conséquence, une suite logique. Mais il y a deux possibilités si je demande quelque chose à Ézéchiel. Lesquelles?
Soit il peut dire oui.
Soit il dit oui. Soit il dit non. D'accord. Mais est-ce que nous, quand on demande, on pense à ça? Non. Nous, on impose à Dieu. Mais Dieu, donne-moi si. Enfin, c'est pas de s'il te plaît. Je veux ça. Il n'y a pas deux possibilités en fait. C'est, je demande à Dieu, mais qui doit me donner? Il y a deux possibilités, tout simplement. Quand on demande, il peut nous donner comme il peut ne pas me donner. Et ça lui appartient. Même si Ézéchiel a 1 milliard, je lui ai demandé, est-ce que j'ai le pouvoir d'imposer à Ézéchiel de me donner la voiture? Pourquoi? Qu'est-ce que, à part lui mettre une arme sur la tête et donne-moi 1 milliard? Et non, je n'ai pas le pouvoir. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Si on ne peut pas imposer aux hommes, pourquoi on impose à Dieu? Non, mais c'est vrai, méditons là-dessus. Vous allez voir qu'en fait, beaucoup de frustrations que nous avons, si on réfléchit bien, ça ne tient pas. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça a à voir avec nous-mêmes. Notre attitude vis-à-vis de Dieu n'est pas correcte. Et nous sommes frustrés par nous-mêmes. Vous voyez? Si on regarde les choses dans cet angle-là. Bon, on reprend l'exemple de la voiture. Ézéchiel décide de ne pas me donner. Bon, il y a plusieurs raisons. Il peut me dire, je ne te donne pas pour telle, telle raison. Tout simplement, il peut me dire, je ne te donne pas. Non, je ne te donne pas. Il a droit aussi. D'accord? Il a droit de me dire non et de m'expliquer. Il a droit de me dire non et de ne pas m'expliquer. Ça lui appartient. Il peut aussi me dire oui. M'expliquer. Il peut me dire oui, mais me donner une petite voiture. N'est-ce pas? Moi, j'ai demandé une voiture. Il peut me donner une Twingo. Alors, regardez comment les chrétiens on est. Tu demandes une voiture, et il me donne une Twingo. Ah, je me plains. Pourquoi tu m'as donné une Twingo? Moi, j'ai pensé à une Mercedes, une BMW. Et on en veut encore à Dieu parce qu'il nous a donné ce qu'on voulait, mais pas comme de la marque, de la taille, de la façon dont on voulait. Voyez? Et là, on va commencer encore à critiquer Dieu. Mais quand j'ai demandé la voiture, Dieu m'a donné une voiture, non? Hein? Même si c'est une voiturette selon moi, mais il m'a donné la voiture. Et je suis encore frustré. Pourquoi tu m'as donné ça comme ça? Moi, je ne voulais pas ça, je voulais l'autre. Et là encore, on va dire que c'est la faute de Dieu. On n'est pas reconnaissant. On ne voit pas ce que Dieu fait pour ce que c'est, pour la valeur que c'est. Mais on est exigeant. Exigeant. Qu'est-ce qui nous donne le droit d'être exigeant envers Dieu? C'est quoi? Est-ce que nous sommes saints? Est-ce que nous sommes parfaits? Est-ce que nous sommes dignes même de nous approcher de Dieu? Si on regarde nous-mêmes, qu'est-ce qui nous donne le droit d'être exigeant envers Dieu? Il n'y a rien. Donc toute la frustration qu'on a construite là, qu'on a développée, parce qu'il ne s'est pas passé ci, parce qu'il n'y a pas eu ceci, parce qu'il n'y a pas eu cela, en fait, ça ne tient pas du tout. Moi, dans cette église ici, quand Dieu m'a choisi pour prendre la suite après Pasteur David, il y avait un certain nombre de personnes. D'ailleurs, pour la plupart, qui sont partis. Mais Dieu, dans sa bonté, a envoyé d'autres personnes. La plupart d'entre vous ici, vous êtes toutes nouvelles. Sauf Blanche et les enfants. Ma femme, elle est arrivée, elle était au Congo, elle est arrivée dans l'église. Donc vous toutes, sauf Blanche et les enfants, vous êtes nouvelles. Mais est-ce que moi, je devais dire à Dieu, je veux que tu m'envoies ça, 50 personnes demain, sinon j'arrête tout. De quel droit? Qu'est-ce qui me donne la légitimité? N'est-ce pas lui qui m'a choisi, qui m'a dit, tu vas conduire cette église? Et si lui m'a choisi, m'a dit, conduire cette église, c'est à lui d'amener les gens. C'est à lui de faire qu'il y ait la louange, il y ait l'évangélisation, il y ait telle personne. La plupart d'entre vous d'ailleurs, là, si on compte Aïdati, Et Sundar, vous êtes venu, Dieu lui-même vous a conduit. Parce que moi, je ne vous ai pas évangélisé. Je n'étais pas allé dehors pour vous chercher. Vous êtes venu parce que Dieu vous a conduit ici. Dorian, pareil, Dieu t'a conduit au travers de Monica, il me semble. Ben voilà. Mais c'est Dieu qui fait les choses. Moi, je suis juste un humble serviteur. Un serviteur, on lui dit, lève-toi, il se lève. Marche, il marche. Viens ici, il vient. Fais ceci, il le fait. Je suis un serviteur. Serviteur de Dieu. Je n'ai rien à imposer à Dieu. Si Dieu m'envoie une personne, mais c'est cette personne-là que je vais servir. Un serviteur, il est là pour servir. Je vais servir cette personne. S'il envoie deux personnes, je servirai les deux personnes. Parce que je sers Dieu. Avec autant d'engagement, autant de qualité, autant de passion que je sers Dieu. Ce n'est pas le nombre. Parce que si je regarde que vous êtes deux, vous êtes trois, vous êtes dix, alors je ne sers plus Dieu. Je sers l'homme. Je sers ce que je vois. Mais moi, je sers Dieu. Qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, je sers Dieu. Que les temps soient favorables ou défavorables, je sers Dieu. Qu'il y ait des gens, qu'il n'y en ait pas, je sers Dieu. Vendredi, je suis allé à la salle. J'étais seul. J'ai prié. J'ai rendu gloire à Dieu. Je suis revenu. Voilà. Mais est-ce que je suis dans la lamentation systématiquement? Oh, mais pourquoi? 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 Parce que pourquoi? Pourquoi? Non, ça ne m'appartient pas. C'est l'œuvre de Dieu. Le jour où il choisira de faire autrement, il fera autrement. Mais ça ne m'appartient pas. Peut-être que jusqu'à la fin de l'appel qu'il a pour moi ici à Lyon, je ne verrai pas une super grande église. Mais vous là qui êtes ici, peut-être que c'est vous qui allez devenir des serviteurs de Dieu, qui allez servir Dieu puissamment et bénir l'œuvre de Dieu là où Dieu vous mettra. Mais ça ne m'appartient pas de savoir ça. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Pierre dit, mais tu vois lui là, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il montrait Jean, il me semble. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce qui t'importe? Toi, suis-moi. Tu t'en fous de ce qui va se passer pour sa vie. Toi, regarde ce qu'il y a devant toi. Regarde ce que je veux faire avec toi. Regarde la mission que je t'ai confiée. En tant que chrétien, c'est ce que nous devons regarder. Qu'est-ce que Dieu nous a confié? Qu'est-ce que Dieu nous a donné à faire? Dans ce qu'il nous a donné à faire, faisons-le d'un seul cœur. Et le reste suivra. Et si nous le faisons bien avec un seul cœur, en fait, Dieu va nous montrer qu'il y a des bénédictions. Et on va avoir un cœur reconnaissant. Un cœur rempli de joie, rempli de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu. Le diable, je disais que c'était lié ce sujet avec la guerre spirituelle. Le diable ne veut pas qu'on soit reconnaissant. Il ne veut pas qu'on se tourne vers Dieu. Et tout ce qu'on a lu dans ce psaume 103, il ne veut pas qu'on le reconnaisse. Pourquoi? Parce que lui, il sait que si nous sommes reconnaissants, alors nous nous connectons à Dieu. Nous sommes dans l'humilité, nous sommes dans l'obéissance, nous sommes dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu. La reconnaissance nécessite la grâce. La reconnaissance se nourrit de la grâce de Dieu. Puisque Dieu a fait toutes ces choses de manière gracieuse, alors moi, je reconnais qu'il est bon envers moi. Puisqu'il m'a donné la santé gratuitement, je reconnais qu'il est bon envers moi. La grâce. Mais si on est dans la grâce de Dieu, le diable, il est sans armes. Parce qu'en fait, ses armes, c'est quoi? C'est de nous montrer que nous ne savons pas faire. De nous montrer que nous ne sommes pas bien. De nous montrer que nous sommes des pécheurs. C'est de nous montrer que nous ne sommes pas dignes de Dieu. C'est de remettre en cause la relation qu'il y a entre Dieu et nous. Notre affiliation avec Dieu. Ce sont ses armes. De remettre tout ça en cause. Et quand nous sommes dans la grâce, tout ça, ça ne tient pas. S'il te dit, est-ce que Dieu est ton père? Oui, il est mon père, mais pas à cause de moi, parce que Christ, il est mort pour moi. C'est le sang de Jésus qui m'a rendu enfant de Dieu. Et est-ce que Dieu te bénit? Oui, il me bénit, mais pas à cause de moi. Voyez? Et il ne trouve plus rien à dire. Parce que la Bible dit qu'il est l'accusateur de frères. Mais il nous accuse de quoi? Il nous accuse de notre marche dans la chair. Il nous accuse de ce que nous vivons dans ce monde. Mais or, Jésus dit que vous êtes assis dans les lieux célestes. Je m'en vais vous préparer une place auprès du Père, afin que là où je suis, que vous aussi, vous soyez. Donc si Jésus nous a préparé une place et qu'on est à côté de lui, alors le diable, il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il a perdu. Il a perdu la bataille. La reconnaissance nous connecte à la grâce, nous connecte à l'amour de Dieu, nous connecte à la fidélité de Dieu, nous connecte à la justice de Dieu, nous connecte à la réconciliation, nous connecte à l'œuvre accomplie. La reconnaissance nous nourrit en fait de la parole de vérité. Et si nous sommes nourris de cette parole de vérité, alors cette parole, elle va devenir une vie en nous. Elle va produire une source de vie, une source d'eau vive qui va jaillir. Et on peut s'en abreuver tout le temps, aussi longtemps que c'est nécessaire. La reconnaissance, c'est aussi ça, qu'on va venir à Dieu comme on veut, parce qu'on est reconnaissant envers Dieu. On va être dans sa présence. C'est Kevin qui disait ça tout à l'heure. La reconnaissance va nous mettre dans la présence de Dieu en permanence. Toujours. Toujours. Un enfant qui est reconnaissant, qui vient vers ses parents, « Seigneur, papa, merci parce que tu m'avais fait ci, tu avais fait ça. » En fait, il n'y a aucune raison que le père le rejette. Parce que l'enfant vient toujours avec reconnaissance. Et le papa, au contraire, quand tu vois cet enfant, il dit, comme Dieu dit de Job, « Est-ce que tu as vu mon fils? Est-ce que tu as vu ma fille ?» Regarde-le, regarde-la. Je suis tellement fier. Dieu veut dire ça de nous. Et il le dit. Il le dit de nous. Mais nous devons être conscients de ça. Nous devons être conscients de ça. La reconnaissance nous donne la force dans cette guerre spirituelle. Elle nous entoure de l'amour véritable de Dieu et de la grâce de Dieu. Amen.